Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui pour cette troisième enseignement du carême qui vous est proposé autour de la question des sept péchés capitaux. Voilà, nous allons commencer par un chant. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez vos vies, croyez que Dieu vous aime. Je voudrais d'abord continuer aussi à l'occasion de ces enseignements de nous rappeler un peu ce qu'est le péché et comment Dieu veut nous en délivrer. Car rappelons-nous quand même une chose importante, on ne se libère pas soi-même du péché, c'est Dieu qui par sa grâce nous donne la victoire. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je ne dis pas que nous n'avons pas à apporter notre pierre à cette lutte contre le péché, mais fondamentalement, rappelons-nous que celui qui vient extirper le péché, celui qui vient vaincre le péché en nous, c'est Dieu. Il se trouve que ce mardi, nous avons entendu une lecture, en première lecture, à la messe, ce passage d'Isaïe. Et il m'a semblé utile de vous le relire. Voilà ce que dit Dieu. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareil au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, le peuple de Gomorre. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Voilà, déjà ce sont des bons conseils que Dieu nous invite à mettre en pratique. Mais il y a la suite, et c'est cette suite qui m'intéresse particulièrement. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. J'aime beaucoup ce passage qui nous rappelle évidemment la puissance de Dieu par rapport au péché. D'abord, il y a ce dialogue entre Dieu et nous. Dieu veut entrer en discussion avec nous pour nous aider à lutter contre le mal. C'est magnifique qu'il prenne ce temps de dialoguer avec nous. Et en raison de ce dialogue, voilà ce que va faire Dieu. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. À l'époque, la laine était blanche. Il n'y avait pas de coloris, il n'y avait pas de teinture. Les gens portaient des vêtements en laine blanche. Moi, je me rappelle ma maman, quand j'étais jeune, elle nous avait tricoté, vous savez, des magnifiques, vestes des Pyrénées, là, avec de la grosse laine blanche. Magnifique, extraordinaire. Et c'est increvable. Je ne peux plus la mettre maintenant, mais, parce que j'ai grossi. Mais mon Dieu, que c'était beau ce travail que ma maman faisait avec cette laine blanche, vous savez, épaisse, magnifique. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir. En fait, Dieu, évidemment, veut nous permettre d'être victorieux. Et il met tout en œuvre pour cela. Il nous donne des conseils, il nous invite à les suivre, il vient auprès de nous, il discute avec nous. Et si nous acceptons cela, si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Bonne introduction au péché que je vais aborder aujourd'hui. Je garde le secret sur le péché que j'aborde chaque fois, pour vous permettre de découvrir, évidemment, avec moi, ce nouveau péché capital. Alors aujourd'hui, on va parler de la gourmandise. Oh là là, je sens que ça suscite quelque chose. La gourmandise. Voilà. C'est pas rien, la gourmandise, hein. Alors, sûrement que la gourmandise n'est pas le plus grave des péchés. Je ne dis pas cela parce que je suis gourmand, mais tout simplement parce que nous comprenons bien que ce péché, à la fois, il est bien présent dans nos vies, sûrement, mais que nous avons des moyens de lutter contre. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous fait durablement du mal. Encore que. La gourmandise, qu'est-ce que c'est ? Alors, je le dis parce que c'est important de le dire, ce n'est pas aimer les bonnes choses. On a le droit d'aimer les bonnes choses. Si Dieu nous a donné des papilles gustatives, c'est pour que nous soyons capables d'apprécier la nourriture que nous mangeons. Je redoute le jour où, pour nous nourrir, on nous donnerait des pilules. Vous imaginez ça ? Que notre repas se transforme en prenant deux pilules. Ça serait dramatique. Voilà, donc heureusement que cet aspect fondamental de notre vie quotidienne nous permette de goûter avec joie de bonnes choses. Et quand on dit de bonnes choses, ça ne veut pas dire des choses qui coûtent cher. Il y a des choses toutes simples qui peuvent être très bonnes. Très très bonnes. Suivant la manière dont elles sont préparées. Donc, la gourmandise ne consiste pas à aimer les bonnes choses. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, elle consiste en abuser. Elle consiste dans le fait que nous fassions des excès de nourriture. C'est ça la véritable plaie de la gourmandise. C'est-à-dire le fait que, au lieu de se contenter de ce dont nous avons besoin, eh bien, nous sommes évidemment tentés, pas contentés, mais tentés, eh bien, de manger plus, de manger toujours plus. Et vous le savez bien, dans ce domaine, on peut être extrêmement vulnérable. Il y a un vrai danger, d'abord pour notre corps, à manger trop. C'est une manière aussi, en luttant contre la gourmandise, c'est une manière évidemment de prendre soin de soi. Mais il y a évidemment d'autres conséquences à la gourmandise. Et la conséquence presque immédiate, c'est évidemment que les autres autour de nous sont perçus comme un danger. Ils vont prendre la plus grosse part. Et donc, moi, je ziote sur une part de gâteau, la grosse, et mon voisin à table la prend. Catastrophe ! Parce que non seulement je suis privé de ma part de gâteau, mais je nourris, évidemment, un peu de colère contre celui qui m'a piqué ma part. Pourquoi ? Mais parce que j'avais imaginé que j'étais seul, ou j'avais imaginé que je serais celle qui allait se servir en premier. Vous savez, quand les gens, dans un repas, vous proposent de vous servir en premier, c'est un grand piège, en fait. Parce que comme vous vous servez le premier, vous n'osez pas trop en prendre, en vous disant, il faut que j'en laisse pour les autres, quand même. Et puis vous vous rendez compte qu'après, les autres se servent beaucoup plus que vous. Parce qu'en fait, ils n'ont plus ce souci. Plus on avance autour de la table, et plus on peut percevoir ce qui reste. Et donc, vous vous rendez compte que le dernier va en avoir deux fois plus que vous. Et donc, il y a quelque chose d'insupportable, vous voyez ? Alors voilà, la gourmandise, en fait, elle est un mauvais rapport à la nourriture. Elle est aussi, donc, un mauvais rapport aux autres qui sont perçus comme des concurrents. Et par conséquent, ça va nourrir chez nous quelque chose de désagréable vis-à-vis d'eux. Alors, la gourmandise, elle est présente, évidemment. Pourquoi ? Mais parce que le plaisir de la bouche, en fait, correspond à un des premiers plaisirs naturels que nous avons eus quand nous étions bébés. Le fait de pouvoir téter le sein de notre maman et d'y trouver réconfort et d'y trouver la nourriture dont nous avons besoin pour grandir. Et donc tout ce qui touche à la nourriture touche à quelque chose d'essentiel et surtout de gravé dans notre mémoire depuis longtemps. Et ça, évidemment, ça nous touche. Alors, on voit bien que le péché de gourmandise a toujours existé. Vous vous rappelez peut-être que dans l'Évangile, il y a des gens qui osent traiter Jésus de glouton et d'ivrogne. Vous savez, quand ils font la comparaison entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste, il est au désert, il mange des sauterelles, on dit il est complètement fou, et voilà, donc il ne va pas du tout. Et de Jésus, on dit, parce qu'il mange chez les publicains, que c'est un glouton et un ivrogne. Vous imaginez bien que ce genre d'attaque contre Jésus n'est pas innocente. D'une certaine manière, c'est un désir de l'atteindre et d'atteindre sa crédibilité. Alors, rassurez-vous, on dit de Jésus. En fait, Jésus n'est pas un glouton, Jésus n'est pas un ivrogne, évidemment. Mais voyez comment on peut facilement utiliser cet argument contre les gens. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est assez souvent utilisé. Quelqu'un va me voir sortir d'une pâtisserie avec un gâteau dans les mains. Ah, c'est pas bien pour un prêtre. Alors j'explique que j'ai mis du sel pour le rendre plus mauvais. Voyez, on est facilement prisonnier soi-même de ce que peut être la gloutonnerie, la gourmandise. Mais d'une certaine manière, c'est une arme qu'on utilise assez facilement contre les autres. Et il y a là quelque chose qui est malsain, évidemment, puisque, encore une fois, rien n'est plus légitime que d'aimer les bonnes choses. Voyez comment aussi cela peut se traduire d'une autre manière, je me permets de le dire, pour les personnes qui préparent de bonnes choses. Il y a les personnes qui aiment manger de bonnes choses. Il y a des gens qui aiment préparer de bonnes choses. Et voilà, vous invitez à votre table quelqu'un, vous avez passé la matinée à faire le repas, et à chaque fois que la personne commence à prendre une bouchée, vous dites « ça va, vous aimez, c'est bon ?» Alors vous le dites une fois, deux fois, trois fois, dix fois. À chaque fois que la personne mange, vous lui demandez si c'est bon. On a presque envie de répondre « écoutez, à force, ça ne l'est plus, hein ?» Mais pourquoi on fait ça ? Parce que là aussi, vous voyez, par rapport à cette question de la gourmandise, d'aimer les bonnes choses, on veut en tirer un profit pour soi-même. Voilà, la personne qui a cuisiné, elle est surtout contente du fait que la personne qui mange apprécie ce qu'elle a fait. Voilà, c'est des petites choses. Mais voyez comme quoi, ce qui est bien quand je vous vois et je vous entends, je me dis que la gourmandise est un péché qui suscite quand même beaucoup d'amusement et qui finalement nous permet aussi de rire de nous-mêmes et de rire des autres. Alors évidemment, là je suis en train de parler de manière assez légère de tout ça. Il y a quelque chose qui est évidemment beaucoup plus embêtant. C'est quand La gourmandise peut mettre en cause ma santé. Pourquoi ? Parce que là, tout à coup, je me sens tenu d'être prudent, de faire attention, d'être vigilant. Et c'est vrai que, reconnaissons-le, généralement, nous prenons 3 repas par jour. Le matin, le petit déjeuner, le midi et le soir. Alors je pense en particulier aux personnes qui sont diabétiques et qui ont comme demande expresse de faire attention à ne pas manger trop de sucre. Or, du sucre, il y en a partout. Voilà. Eh bien, je me rends compte, je suis diabétique, je me rends compte à quel point c'est une sorte de question permanente. Vous mangez quelque chose, mais vous vous dites « Oh, est-ce que j'ai eu raison de manger ça ? Bon, j'ai voulu faire honneur au gâteau, mais est-ce que j'ai eu raison ?» Et en fait, ça peut créer un véritable enfer. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de se demander si on n'a pas fait d'abus, si on n'a pas fait d'excès, si on a le droit de le manger, si on n'a pas le droit de le manger. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même, je le dirais, qui est quand même un peu parfois lourd à porter. Je pense à autre chose. Les gens qui sont prisonniers de l'alcool. Vous voyez bien que les gens qui sont prisonniers de l'alcool sont malades. Ce sont des personnes qui sont porteurs d'une pathologie. On ne peut pas leur reprocher de boire pour la seule et simple raison que souvent, c'est devenu une addiction. Alors évidemment, vous voyez pourquoi ça touche la gourmandise aussi ? Parce que boire un bon vin de manière raisonnable, c'est très agréable. Boire du vin de manière excessive, au point d'en être malade, au point de perdre la raison, au point de devenir un vrai problème pour toute sa famille, mon Dieu que c'est difficile, mon Dieu que c'est dur. Et nous le savons, ce genre de situation ne peut pas se régler uniquement par des conseils, parce que souvent la personne n'est pas en mesure de les appliquer. Et souvent, malheureusement, ce genre de situation conduit à devoir être soigné, être pris en charge. Et là aussi, quelle humiliation, quelle difficulté. Tout cela, voyez, nous montre à quel point le rapport à notre corps et le rapport à la nourriture et à la boisson, si c'est une occasion de joie de manière habituelle, peut être aussi l'occasion d'une grande souffrance. Alors, j'aime bien dire à cette occasion que quelqu'un qui est alcoolique, et qui pour l'amour de Dieu renonce à boire un verre, est plus sain que moi. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas de mal à me passer de boire un verre. C'est tout à fait faisable. Pour lui, peut-être, c'est quelque chose, ou pour elle, c'est peut-être quelque chose de extrêmement difficile. Accepter pour l'amour de Dieu de se priver d'un verre de vin, par exemple, eh bien, c'est digne de respect, digne d'encouragement. Parce que c'est un effort très, très intense que la personne a accepté de vivre pour renoncer à son mal. Il faut avoir beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent cela. Il faut les encourager, évidemment, à se faire aider. Quand je dis beaucoup de compassion, je sais bien que c'est pas toujours simple, hein. Je sais bien que c'est pas facile. Moi, quand j'étais jeune prêtre à Montmartre, il y avait un chapelain qui était alcoolique. Il arrivait avec un verre de vin à la sacristie et il vous disait qu'il ne buvait pas de vin. Et voilà. Et ce pauvre prêtre, pourquoi l'était-il devenu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, c'était parfois pénible, évidemment, assez souvent, mais c'était surtout digne de compassion, parce que, mon Dieu, quelle souffrance, quelle déchéance, quelle tristesse pour lui. Voilà, donc la gourmandise, qui prend une forme particulière, comme je le disais, dans l'excès de boisson, la gourmandise est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux est quelque chose qui doit mener à un vrai combat. Un vrai combat. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas rester prisonnier de ça. Parce que dans la gourmandise, je perds la maîtrise de moi. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, de très humiliant. Souvent au confessionnal, il m'arrive de dire aux personnes, vous savez, votre péché, c'est pas que c'est mal dans l'absolu, c'est que à travers ce péché, vous perdez la maîtrise de vous-même. Et ça c'est dommage. Si vous êtes colérique et que vous mettez en colère pour un oui ou pour un non, vous perdez la maîtrise de vous-même. Et du coup, après, vous êtes obligé de voir les personnes, de leur dire, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas réussi à me contenir, mais mes mots ont dépassé ma pensée. Mais voyez bien comment le péché et la gourmandise nous en montrent un exemple. Un péché est souvent un manque de maîtrise de soi. Un manque de maîtrise de soi. Et cela est dommageable. Évidemment. Pourquoi ? Déjà pour soi-même, mais aussi dans toutes les relations que nous avons avec les autres. Nous sommes appelés, évidemment, à être maîtres de nous-mêmes. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser prendre par ce qui peut paraître plus fort que nous. Et la gourmandise, et voilà, nous révèle un peu nos fragilités, nos faiblesses. Donc c'est un domaine dans lequel il faut apprendre à lutter. Je pense que heureusement, c'est, comme je le disais, un péché capital par rapport auquel nous avons un certain nombre de moyens pour l'endiguer. Voilà. Alors, par exemple, au lieu d'être préoccupé par la nourriture, au lieu d'être préoccupé par le fait de manger, de manger, de manger, peut-être une première attitude, mais qui paraît très juste. Retrouver dans la nourriture un don de Dieu. C'est-à-dire que, au lieu de nous approprier la nourriture comme si c'était quelque chose qui nous appartient, commencer par remercier Dieu pour ce que nous pouvons manger. Entre nous, soit dit, c'est le sens du bénédicité. Le bénédicité n'a pas pour but de rendre la nourriture meilleure, mais le bénédicité a pour but de nous faire prendre conscience que ce que nous allons manger, nous le tenons de la bonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, garder conscience de ce qu'est ce don de Dieu de la nourriture. Et aussi, faire légitimement de ce moment où on mange un moment festif. Alors moi, je vous dis ça, et quand je suis chez moi, je mange debout dans ma cuisine. C'est malin. J'étais touché par ma grand-mère qui était veuve et qui m'expliquait que tous les jours, midi et soir, elle se préparait un repas, un vrai repas, qu'elle mettait une assiette, une fourchette, un couteau, un verre sur la table de la cuisine et qu'elle s'asseyait pour manger, soit le midi, soit le soir. Et vous voyez, je n'ai pas toujours tenu compte des conseils de ma grand-mère, mais elle avait raison. C'est déjà une manière d'honorer ce moment où nous prenons de la nourriture. Si on est debout devant son évier et quand on est en train de manger un truc et qu'on le mange comme ça, on peut vite dépasser les limites. Voilà. Et puis on n'honore pas ce moment. Alors que l'honorer est peut-être une manière la plus belle de lui donner son sens. C'est ce qui permet, par exemple, de se dire que il ne faut pas grignoter, ça ne sert à rien. Il y a 3 repas par jour, eh bien, contentons-nous de ces 3 repas que nous avons la grâce de pouvoir manger. Grignoter, c'est toujours dangereux. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous entraîne du côté de la gourmandise. Parce qu'évidemment, on ne grignote pas des choses qu'on n'aime pas. Voilà. On grignote des choses qu'on aime. Et on achète des choses à grignoter qu'on aime. Voilà. Donc c'est très important, déjà, de rendre grâce, de retrouver le sens de l'alimentation ou de la boisson comme un don de Dieu. Il faut accepter de renoncer. Enfin, je veux dire par là que c'est possible. Si on commence à se dire que c'est pas possible, ben alors où va-t-on, quoi ? C'est possible. Et vous savez bien que pendant le carême, on essaie de faire ça. Enfin, on essaie de faire ça. On se dit, ben oui, tiens, je vais renoncer à des choses que je mange habituellement, que j'ai pas besoin de manger, etc. Ou alors on se dit, je vais jeûner. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Si un jour, vous êtes obligé de rater le repas de midi pour une raison quelconque, eh bien, vous ratez le repas de midi, et puis le soir, vous mangez un peu plus. Si le matin, vous vous dites « ce midi, je vais jeûner », alors là, c'est la catastrophe. Toute la matinée, vous avez mal au ventre. Toute la matinée, vous vous dites « mais à quoi ça sert de faire ça ? C'est ridicule, ça sert à rien, Dieu le voit pas, pourquoi je fais ça ? Ça sert à rien. » Et voilà, et on passe son temps à essayer de démolir ce qu'on a essayé de construire. Pourquoi ? Parce que ça a un enjeu spirituel. Et dès que ça a un enjeu spirituel, il y a un combat spirituel. Et donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir mal au ventre quand on a décidé de jeûner. Ou par exemple, aujourd'hui, vous savez, c'est vendredi de carême. Donc, on est censé ne pas manger de viande. Voilà, on fait abstinence de viande. Et moi, je suis allé faire des courses ce matin pour le repas de ce midi. Non, pas pour ce midi. Et puis, je passe devant un nouveau magasin, le poulet. Et je dis, mais le poulet, ça vit dans l'eau, non ? C'est un peu comme les canards. Voilà. Non, j'en ai pas mangé. Mais je me suis dit que demain, j'irai, parce qu'ils font des... Ils font des poulets grillés à 7 euros. Et des demi-poulets à 4 euros. Mais vous voyez, l'espace d'un instant, je me suis arrêté et je me suis dit, mais à propos... On n'a pas le droit de manger du poulet le vendredi de carême, voilà. Vous voyez, c'est marrant comment ça se passe, hein. Et je me suis dit, ben tiens, ce soir tu mangeras des sushis. Ça va, c'est du saumon. Et vous savez, parfois je les accompagne avec des brochettes avec de la viande et du fromage. Là, c'est très bon, du bœuf et du fromage. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Et puis tout à coup je me suis dit, mais non, mais tu n'as pas le droit. C'est vendredi, tu peux pas manger de viande. Oh là là, que c'est dur la vie. Je vous l'ai dit, hein, la question de la gourmandise, en fait, pourquoi ça nous revient tout le temps ? Parce qu'on a des repas à faire tous les jours, quoi. Et donc ça revient souvent, évidemment. Et donc, non seulement il faut vouloir le... Alors, je vais vous donner quelques conseils pour le renoncement. Prendre d'un plat que l'on aime moins ou pas. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Prendre d'un plat qu'on aime moins ou pas. Renoncer à se resservir d'un mets dont on raffole. Ça c'est difficile, hein. Vous êtes invité, c'est délicieux, la maîtresse de maison vous repasse le plat, je vous en prie mon père. Non, je vous en prie, merci. Renoncer à un aliment qu'on apprécie. Ouais, en fait, je trouve ça intéressant parce que je me dis, finalement, c'est des toutes petites choses. C'est de la blague tout ça, finalement. Hein. Mais n'empêche que ça me fait entrer dans la lutte objective contre la gourmandise. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est remarquable. Et puis, il y a aussi donc essayer d'être attentif aux causes de la gourmandise. Vous savez, parfois, on se réfugie dans la nourriture parce qu'on a un souci. C'est-à-dire, des personnes qui sont angoissées, qui sont inquiètes, qui ont un gros souci, ces personnes peuvent avoir tendance à se réfugier dans la nourriture pour y trouver une consolation. Mais voyez, quand on commence à prendre conscience de ça, on se dit attention de ne pas tomber dans le piège. Voilà, si c'est ça qui est en cause, si c'est parce que je suis inquiet, si c'est parce que je suis angoissé, ben voilà, je vais essayer de ne pas tomber dans le piège de la nourriture. Il faut apprendre à patienter, voilà. Vous voyez, comme la gourmandise, c'est de l'excès, c'est trop. Eh bien, on peut se dire, tiens, par exemple, ça, je le mangerai ce soir, au lieu de tout manger alors qu'on n'a plus faim. On n'a plus faim, on peut s'arrêter. Et pourtant, on risque de continuer. Pourquoi ? Ça sert à rien. On va le garder pour le soir. Et puis voilà. Ça m'amuse parce que le père Pascalide, là, qui parle de la gourmandise, dit « Imaginez le Christ à table avec nous. » Voilà, je vais manger et j'imagine que Jésus est avec moi. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus par rapport à tout ça ? Voilà, ça peut m'aider aussi. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la gourmandise, qui est probablement, entre guillemets, le péché capital le plus sympathique, vous savez, le péché mignon, comme on dit, comme le filet mignon, non, mais le péché mignon. En fait, il faut y être attentif pour les raisons que j'ai données, pour garder sa liberté, pour être aussi capable de se restreindre, et puis aussi pour être capable de se mortifier un peu. Enfin, parfois, on cherche des moyens de faire un peu pénitence. Ben, peut-être que en luttant contre la gourmandise, on trouve un bon moyen pour lutter contre cet excès qui peut toujours nous guetter. Je suis sûr que, comme moi, vous avez des mets que vous aimez particulièrement, voilà, que vous aimez profondément. Eh bien, la mesure par rapport à ça, des plats, toutes sortes de choses, la mesure par rapport à ça, elle fait grandir l'estime de soi. Voilà, on se jette pas sur le truc comme si on n'avait jamais mangé, mais on fait attention de garder une certaine mesure. Je pense encore à ma grand-mère. Vous savez, on apprend beaucoup de choses avec ses grand-mères. Hein. Quand j'étais enfant, je passais un mois de vacances chez une de mes grand-mères, la maman de ma maman, et donc nous mangeions évidemment tous les jours ensemble. Et puis un jour, elle était en train de préparer le plat principal, elle avait posé l'entrée sur la table, je me sers et je commence à manger. Elle se retourne, elle me dit « Tu peux pas m'attendre ? Tu peux pas m'attendre ? On est tous les deux, tu crois pas que tu pourrais m'attendre pour manger ? Plutôt que commencer tout seul, comme ça, comme un goinfre ?» Eh bien écoutez, je vous assure que ça m'a marqué profondément. Parce que, vous voyez, l'espèce de préoccupation pour la nourriture fait que parfois, on passe complètement à côté des autres. Et en fait, ma grand-mère a contribué à me faire comprendre que quand on était à table, on était aussi attentif aux autres. Alors, les règles de bonne conduite, de bonne manière, m'ont rassuré, parce que cette attente de l'autre, c'est uniquement pour l'entrée. Après, le plat principal, on peut servir et manger, on n'a pas besoin d'attendre les autres. C'est uniquement pour l'entrée, m'a-t-on dit. Voilà, donc soyons heureux de penser qu'un jour au ciel, on mangera des choses excellentes. Et écoutez, je n'y peux rien, hein, c'est Dieu qui l'a voulu. En fait, vous avez remarqué que pour parler du paradis, de quoi parle-t-on ? De la bouffe, de la nourriture, un festin avec des plats délicieux, des vins décantés. Oh, mais c'est pas pour rien que Jésus a parlé de ça comme ça, ou que l'Écriture en a parlé comme ça. C'est donc qu'il y a quelque chose de juste, mais qu'il faut le garder dans sa mesure pour ne pas devenir excessif. Amen.